بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche le 9 du mois Dhul-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions ensemble ces 6 passages de la biographie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on est arrivé au deuxième passage, au sixième passage, afwan, de cette risala, cet épître très bénéfique. Comme on a vu, l'auteur a choisi des passages de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, afin qu'on tire les enseignements, et que pour que ce soit un début pour chacun d'entre nous, afin qu'il étudie d'une manière plus détaillée la biographie de Nabi alayhi salatu wassalam, siratu Nabi sallallahu alayhi wassalam. Car quand on étudie la biographie du prophète alayhi salam, nous apprenons à mieux le connaître et à plus l'aimer et à plus le suivre et lui obéir également. Et comme vous savez, cette religion de l'islam, elle est basée sur 2 attestations de foi. On devient musulman en prononçant les 2 attestations de foi. La première, le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah », on atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci veut dire que tu dois adorer uniquement et exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc toutes tes adorations doivent être vouées pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore pas les pieux et les vertueux. On n'adore pas les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième attestation de foi, « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » veut dire d'adorer Allah uniquement avec ce que notre prophète nous a enseigné, c'est-à-dire avec la tradition prophétique. Donc ça, c'est la signification, mes frères, de la deuxième attestation de foi. « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » nous attestons que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé avec la religion de vérité. Donc, nous devons adorer Allah seulement et uniquement avec les enseignements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai dit, on est arrivé à ce sixième passage de cette risala, le dernier, duquel on a parlé déjà la semaine dernière, et ainsi on va terminer bi'idnillah cette risala aujourd'hui. Donc, dans ce passage, l'auteur nous parle de l'histoire de l'apostasie qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de certaines tribus arabes autour de Médine. Et ce que l'auteur veut nous expliquer, c'est que ces apostats n'avaient pas tous la même raison de l'apostasie. Il y en a qui ont apostasié, en reniant l'obligation de la zakat. Ils ont dit, il n'y a plus de zakat après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont refusé de la quitter. Et d'autres n'ont pas renié l'obligation de la zakat et sa prescription. mais ils ont refusé de l'acquitter par avarice. Et Abu Bakr, comme vous savez tous, les a combattus tous sans faire de distinction entre eux. Radiallahu anhu. Il les a combattus parce qu'ils ont renié une seule prescription de l'islam. C'est des gens qui disaient la ilaha illallah, qui faisaient la salat, qui faisaient le jeûne et qui faisaient le pèlerinage. Mais ils ont relié une prescription qui représente un pilier de l'islam. Abu Bakr radiallahu anhu, avec tous les compagnons, les ont combattus jusqu'à ce qu'ils sont revenus dans l'islam. Ils ont reconnu la prescription de la zakat. Ils ont combattu d'autres apostats également, dont la cause de l'apostasie était le fait d'avoir cru que Musaylim al-Kadhab a été associé avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prophétie. Car cet apostat, ce grand menteur, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené des faux témoins, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié la prophétie après lui. Et comme vous savez, la prophétie, ce n'est pas quelque chose que les humains choisissent. La prophétie, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne choisit d'être prophète. Et personne ne peut choisir qu'une autre personne soit prophète. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit et qui envoie les prophètes. Donc malgré qu'il a ramené ses faux témoins, Abu Bakr radiallahu anhu a combattu tous ceux qui ont cru en Musaylim al-Kadhab et qu'il était un prophète. Malgré que ces deux gens, rappelez-vous, c'est des gens qui disent « La ilaha illallah » et qui disent « Muhammadur Rasulullah ». Mais Musaylima est associé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la prophétie. Il les a combattus, la tribu de Banu Hanifa, jusqu'à ce que la majorité d'entre eux sont revenus dans l'islam. Également, d'autres ont apostasié dans le Yémen. Ils ont suivi un homme qui s'appelle Al-Aswad al-Ansi. Al-Aswad al-Ansi, avant l'islam, c'était un devin, kahin. C'était un sorcier, une forme de sorcier devin de sa tribu. Et avec l'arrivée de l'islam, il a montré comme quoi il était musulman. Mais vers la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il a prétendu être un prophète. Et des gens de sa tribu l'ont suivi. Et les musulmans les ont combattus. Avec d'autres exemples, il n'y a pas que l'Aswad al-Ansi. Je vous ai cité la semaine dernière Tolayha ibn Khuwaylidin al-Asadi. Je vous ai cité une femme qui s'appelle Sujah bint al-Harith al-Tamimiyya. Tous ces gens-là ont prétendu être des prophètes après la mort du prophète alayhi salam, ou même pendant son vivant, comme Musaylima et comme l'Aswad al-Ansi. As-Sahaba, ya ikhwa, comprenez que ces gens qui les ont suivis et qui ont cru en eux, c'est des gens qui disent « La ilaha illallah ». Et certains disent même « Muhammadur Rasulullah ». Mais les compagnons les ont combattus tous jusqu'à ce qu'ils sont revenus dans l'islam. Pourquoi ils nous citent tous ces points? Pour nous dire tout simplement, et c'est ça la leçon et l'enseignement qu'on doit retenir, l'islam, ya ikhwa, c'est pas une simple parole avec la langue. L'islam, c'est pas une simple parole avec la langue. Naam, pour moi, homme comme toi, tu dis la ilaha illallah, pour moi t'es un musulman. Lakin l'islam, qui compte auprès d'Allah, c'est pas seulement ce que tu dis avec ta langue. Il faut que tu crois avec ton cœur et que tu mettes en pratique avec tes membres. هذا هو الإسلام. C'est ça l'islam. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est quoi la définition de l'islam? L'islam, c'est la soumission. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter qu'on appelle quelqu'un musulman, car c'est dénuer ce mot de son sens. Muslim, ça veut dire soumis. Soumis à Allah. Soumis à sa volonté. Soumis à son décret, soumis à sa religion, et obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala en premier par le pur monothéisme, qui est d'adorer Allah seul sans rien lui associer, et d'être dans le suivi de Nabi alayhi salatu wassalam. Sachez avec certitude que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte parmi les adorations que ce que tu fais sincèrement pour lui, pas pour l'admiration des gens, pas pour l'estime, pas pour l'argent, pas pour les éloges, pas pour le statut et le poste. Allah n'accepte que ce que tu fais pour lui, subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Et il faut une deuxième condition, que cette adoration comporte le suivi de Nabi alayhi salatu wassalam. Sinon, ça sert à quoi de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » si tu adores Allah avec les traditions de ton pays ou avec les coutumes de ta tribu? Ça sert à quoi de dire « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » ?« Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » ça veut dire que tu adores Allah avec ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné seulement. Et c'est ça les adorations qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, il veut nous dire, ya ikhwa, que il ne suffit pas de dire la ilaha illallah avec la bouche. Il faut connaître la science de la ilaha illallah. Vous lisez tous comme moi dans le Coran la parole d'Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de vraie divinité excepté Allah. Il faut qu'on ait la science de cette parole. Il faut qu'on connaisse ses conditions. La ilaha illallah, comme a dit un pieux prédécesseur, c'est comme une clé avec des dents. Si tu ne viens pas avec une clé ayant toutes les dents, la porte ne sera pas ouverte, la porte du paradis. La porte, elle s'ouvre seulement pour celui qui a la bonne clé, la parole la ilaha illallah, avec ses conditions. Donc la parole la ilaha illallah, ce n'est pas une simple parole qu'on répète avec la langue. C'est pour ça, si nous apprenons à dire la ilaha illallah à un perroquet, et vous savez qu'il y a des perroquets qui répètent la ilaha illallah, est-ce qu'ils seront au paradis? Bien évidemment non, ils seront réduits en poussière comme tous les autres animaux. La ilaha illallah, c'est quand tu la dis avec science et tu la mets en pratique. Ça sert à quoi de dire 1000 fois par jour la ilaha illallah et quand tu veux sacrifier, tu sacrifies pour un mausolée? Cette personne a contredit sa parole avec son acte. Il a annulé sa parole avec son acte. La ilaha illallah signifie que tu voues toutes tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ya ikhwa, même Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, un des pires ennemis de Nabi alayhi salatu wassalam, un de ceux qui ont fait le plus de mal au prophète salatu wassalam, Abu Jahl, wa ma adraka ma Abu Jahl. Abu Jahl, il a dit une parole malheureusement, que certains musulmans aujourd'hui ne comprennent pas. Il a dit, si la ilaha illallah était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Mais cet homme, incrédule, grand mécréant, sait que la ilallah, ce n'est pas seulement ce que tu dis avec ta bouche. C'est ce que tu crois avec ton cœur aussi. Et ce que tu mets en pratique avec tous tes membres. C'est ce que l'auteur, rahimahullah, veut nous dire dans ce dernier passage de cette biographie. Tayyib. Et ainsi, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de terminer le sixième passage de cette risala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et qu'il nous facilite les œuvres pieuses et acceptable, et qui nous maintient sur notre religion. Car ce qui compte, ya ikhwa, c'est pas d'être musulman aujourd'hui, mais de mourir musulman. C'est pour ça que nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande, c'est ce que Nabi alayhi salatu wassalam demandait le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Umm Salama, comme ont dit beaucoup de compagnons, quelle est la dua que Nabi alayhi salatu wassalam faisait le plus? Si je vous pose la question, quelle est la dua que Nabi alayhi salatu wassalam faisait le plus? Ad-du'a que le Nabi alayhi salatu wassalam faisait le plus, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Est-ce que vous vous rendez compte, ya ikhwa, on est en train de parler de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme qui reçoit la révélation matin et soir d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Ce qu'il demande le plus à Allah, c'est la fermeté et le raffermissement sur la vérité. Et n'allez pas loin. Regardez son autre frère, Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme, cet homme qui était musulman tout seul à un moment sur terre. Et toute la terre était mécréante. Il était le seul musulman sur terre. Cet homme qui a cassé les idoles avec sa propre main. Cet homme qui a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie, avait peur de tomber dans le shirk. Il a dit: "Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas." Et c'est pour ça, plus on apprend tawhid, plus on est des mouahidines, plus on va détester al-shirk, l'associationnisme, et plus on aura peur de tomber dans le shirk. Car shirk, c'est pas seulement se prosterner devant une statue. Al-shirk, c'est un océan sans fin. Ça rentre dans les intentions, ça rentre dans les actes, ça rentre dans les paroles. Quelqu'un peut parler en commettant du shirk. Il parle par ostentation, pour plaire aux gens. Il fait une adoration pour qu'on dise de lui du bien. Et ça, c'est riya, ce que le Nabi a craint le plus pour ses compagnons, pas pour nous. Nous, par la suite. Le Nabi s'est adressé un jour à ses compagnons, il leur a dit: "Akhwafu ma akhafu alaykum min ba'di." Ya Allah. Le Nabi, le meilleur des enseignants, avec les meilleurs des élèves, car sahaba, c'est les meilleurs hommes de cette communauté. Il n'y a pas comme eux qui viendra par la suite. Et malgré cela, il leur a dit: ce que je crains le plus pour vous après moi, ce n'est pas le Masih Dajjal, la plus grande fitna que connaîtra l'humanité. Non, ça ce n'est pas pour les croyants sincères. On ne craint pas pour eux le Masih Dajjal. Ils vont lire sur son front « kafara »,« kafir ». Ils le reconnaîtront avec ses signes. Il a l'œil droit qui est borné. Malgré tous les faits extraordinaires qu'il va pouvoir faire sur terre. Lakin, malgré cela, ça ne sera pas la plus grande fitna pour eux. Mais la plus grande fitna, c'est de tomber dans l'ostentation, de faire des actes d'adoration en voulant l'admiration des gens. Et la sincérité, c'est de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la sincérité et de nous maintenir sur notre religion jusqu'à le rencontrer. Et de nous permettre d'être toujours dans la conformité à l'enseignement et à la tradition authentique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien-aimé. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.